VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 1er juillet 2016. Au sommaire ce soir.
Et 6 morts dans l'attaque de 2 bus par les militants d'Al-Shabaab au Kenya.
L'abbé Malou Malou est décédé, son évêque a confirmé la nouvelle. L'ancien président de la CENI en RDC était à Atlanta en Géorgie pour traitement.
Aux États-Unis, la ministre de la Justice fait la lumière sur une rencontre avec Bill Clinton et promet de rester neutre dans l'affaire des emails d'Hillary Clinton.
En magazine, plusieurs autorités de Bujumbura accusées d'avoir facilité le trafic de jeunes burundaises vers le Moyen-Orient, selon un rapport de l'ONG Focodé.
À l'aéroport de Bujumbura, nous avons constaté, rien qu'en 2 semaines, un mouvement de 225 filles qui allaient à Oman et qui allaient en Arabie Saoudite et qui chaque fois étaient accompagnées d'un trafiquant jusqu'au tarmac de l'aéroport.
L'Euro 2016, l'Islande va-t-elle encore surprendre? Les Bleus vont-ils répondre à l'attente des millions de Français fans du ballon rond? Le match est dans moins de 90 minutes.
D'abord le journal.
En République démocratique du Congo, décès de l'organisateur des premières élections libres de République démocratique du Congo depuis l'indépendance, l'abbé Apollinaire Malou Malou. Des détails avec Anastasie Tudiech.
Son évêque Melchisedek Sikouli l'a annoncé dans un communiqué transmis à l'AFP. L'abbé Malou Malou est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Dallas, dans l'état du Texas, où il était soigné sans que soit précisée la maladie. Des besoins de soins qui l'ont tenu éloigné de la scène publique depuis sa démission le 10 octobre 2015. L'abbé dirigeait alors la commission électorale indépendante, la CEI, devenue la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Il avait été rappelé à la tête de l'organisation en 2013 contre la volonté de l'Église catholique alors qu'il était conseiller du président Joseph Kabila. Originaire du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'abbé Malou Malou allait avoir 55 ans.
RDC toujours, le gouvernement accuse Moïse Katumbi de se lancer dans une tentative pathétique pour détourner l'attention de ses déboires judiciaires. Il faut dire que l'opposant est candidat à la présidentielle prévue cette année. Il a récemment accusé le président Joseph Kabila d'entretenir le flou autour de son avenir politique.
Pour lutter contre le bruit, les autorités de Lagos ont fait fermer des dizaines de mosquées, églises et hôtels de la mégapole nigériane. Les détails avec John Lyndon.
Le patron de l'Agence de la protection de l'environnement, Rachid Adebola Chabi, a ordonné cette fermeture après le refus par certaines églises et mosquées de respecter une directive gouvernementale sur la diminution de la pollution sonore. 70 églises, 20 mosquées, 11 hôtels, clubs et débits de boissons ont ainsi été fermés à Lagos, la ville la plus peuplée du Nigeria, avec ses quelque 20 millions d'habitants. Lagos est réputé pour ses embouteillages monstres et son vacarme, dû en partie aux églises et mosquées qui diffusent leurs messages à grand renfort de haut-parleurs. Le niveau sonore autorisé aujourd'hui est de 55 décibels dans la journée et entre 42 et 45 la nuit. Le gouvernement espère parvenir à éliminer les nuisances sonores d'ici 4 ans. Les autorités locales ont aussi limité l'utilisation des klaxons et sirènes des véhicules dans la même optique.
Dans le nord-est du Kenya, 6 personnes ont été tuées par balle dans une attaque contre 2 bus par des hommes soupçonnés d'être des islamistes somaliens Shebab. Bagassi Koura.
Selon le chef de la police kenyane, Joseph Obwane, cité par l'AFP, 2 personnes ont été blessées. Mais il n'a pas précisé si les victimes de cette attaque menée près de la ville d'Elwak, à la frontière avec la Somalie, étaient des civils ou des policiers qui escortaient les 2 bus. Le 20 juin, 5 policiers avaient été tués dans la même zone par des hommes soupçonnés d'être des Shebabs. Leur véhicule qui escortait un bus avait explosé après avoir apparemment été touché par le tir d'un lance-grenade. Les attaques des Shebabs affiliés à Al-Qaïda sont fréquentes dans le nord-est kenyan. En novembre 2014, les assaillants avaient intercepté un bus, séparé les passagers en fonction de leur religion et exécuté 28 non-musulmans.
Kenya toujours, trois policiers vont être poursuivis pour le meurtre de trois hommes. Leurs corps mutilés ont été retrouvés hier et aujourd'hui, d'après la police. Parmi eux, un avocat ayant accusé la police de harcèlement et d'intimidation.
Du nouveau concernant le crash du vol MH370 de Malaysia Airlines, des pêcheurs de Zanzibar ont trouvé une partie d'une aile d'un Boeing. Reste aux enquêteurs de déterminer si elle appartient à l'avion disparu en mars 2014.
Crise politique en Libye. Quatre ministres du gouvernement d'Union nationale ont été limogés après avoir refusé d'assumer leurs fonctions. Cette annonce a été faite aujourd'hui par le GNA, installé depuis trois mois à Tripoli. Il faut dire que ce cabinet, soutenu par la communauté internationale, a du mal à imposer son autorité, notamment dans l'Est, où siège un gouvernement parallèle.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, sortie musclée d'Israël en Cisjordanie occupée, l'État hébreu a imposé un bouclage de la ville de Hébron et de sa région après une série d'attaques palestiniennes. Lionel Gaïma.
Dans le cadre de ce bouclage, deux bataillons d'infanterie composés de centaines de soldats seront déployés autour d'Hébron, a fait savoir le porte-parole de l'armée israélienne Peter Lerner. Il s'agit de la mesure la plus substantielle sur le terrain depuis 2014, a-t-il souligné sans toutefois préciser combien de temps durera le bouclage de la plus grande ville de Cisjordanie. Ce vendredi après-midi, un Palestinien a ouvert le feu sur le véhicule d'une famille israélienne au sud de Hébron, provoquant un accident qui a tué un passager et en a blessé trois, a indiqué l'armée, qui qualifie généralement les assaillants palestiniens de terroristes. Dans une autre attaque, jeudi, un Palestinien originaire du village de Bani Naïm, proche de Hébron, avait poignardé à mort une adolescente israélo-américaine après s'être infiltrée dans sa maison dans la colonie de Kiryat Arba. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, environ 80 attaques anti-israéliennes ont été menées par les Palestiniens originaires de la région de Hébron depuis le déclenchement d'une nouvelle vague de violence dans le long conflit israélo-palestinien.
Ça, c'est aussi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté un appel lancé hier par le Quartet pour le Proche-Orient à cesser la colonisation des territoires palestiniens occupés. Pour M. Netanyahou, l'idée que cette pratique sape la paix est un mythe. Le rapport des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies a également dénoncé les actes de violence des Palestiniens et condamné le terrorisme.
Le bilan s'alourdit en Afghanistan suite à des combats intenses ces derniers jours dans plusieurs provinces. Selon les responsables du gouvernement, les talibans ont subi de lourdes pertes. Dans la province orientale de Nangarhar, l'armée aurait tué au moins 32 insurgés et perdu 2 soldats en 24 heures. En outre, 54 combattants talibans et 13 policiers ont été blessés, affirme un porte-parole du gouverneur de cette province. Les talibans, eux, parlent d'une trentaine de morts au sein des forces de sécurité. La semaine dernière, plus de 200 éléments du groupe État islamique ainsi que 20 policiers et civils ont été tués dans une autre localité où les talibans ont incendié 40 maisons.
La ministre américaine de la Justice a promis aujourd'hui de rester neutre dans l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton et de suivre les recommandations du FBI relatives à cette affaire. Michel Joseph nous en dit plus.
Loretta Lynch, qui prenait la parole dans le Colorado, a rejeté les critiques lancées par le candidat républicain Donald Trump et d'autres secteurs sur une rencontre qu'elle a eue cette semaine avec le mari de la candidate, l'ex-président Bill Clinton. La ministre a assuré que la rencontre était fortuite et que la conversation n'a pas touché à des dossiers en cours d'examen au ministère de la Justice. Donald Trump ne croit pas à une coïncidence, faisant remarquer que la rencontre serait restée secrète si un journaliste local ne l'avait pas découverte. Quoi qu'il en soit, Loretta Lynch a insisté sur le fait que des agents de carrière et des enquêteurs expérimentés du département de la justice travaillent sur l'affaire des emails de Mme Clinton et l'usage d'un serveur privé alors qu'elle était secrétaire d'État. L'enquête est menée en toute indépendance, a-t-elle garanti. Un rapport de la Sûreté fédérale est attendu bientôt.
Le président américain Barack Obama a exhorté le Congrès à débloquer les fonds nécessaires pour la recherche sur le virus Zika. Monsieur Obama a déclaré à la Maison-Blanche, où il recevait notamment le directeur de l'Institut américain des allergies et maladies infectieuses, que l'heure n'est pas au jeu politique. Il a appelé ses adversaires républicains à prioriser les enjeux sanitaires.
Êtes-vous prêt pour la prochaine révolution technologique ? La Hollande est devenue le premier pays à mettre en œuvre le réseau futuriste de données Internet des choses, données appelées Internet des choses. Dans une déclaration publiée ce vendredi, le groupe télécom néerlandais KPN a fait savoir que le réseau longue distance est maintenant disponible à travers le pays. Grâce à lui, les entreprises privées et organes de services publics pourront échanger des données et télécommander des camions de livraison de marchandises, des feux de circulation ou des commutateurs de chemin de fer. Le grand public pourra aussi communiquer à distance avec leurs voitures et appareils électroménagers.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à présent au journal de l'Euro avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, deuxième rencontre des quarts de l'Euro.
Oui, c'est ce soir hein, et ça montre à quel point certains suivent l'Euro 2016. Ce sera plutôt le Pays des Galles de Gareth Bale contre la Belgique d'Eden Hazard. Le rendez-vous chez Roubaix, c'est tout à l'heure à 19h, temps universel, pour les explications sur la pelouse de Lille. Donc la France et l'Islande, c'est plutôt dimanche pour le dernier match des quarts.
Oui, on est allé au bout du suspense dans ce premier quart de finale au stade Vélodrome de Marseille. La rencontre débute très mal pour le Portugal. La Pologne prend l'avantage très tôt grâce à une belle reprise de volée de Robert Lewandowski dès la deuxième minute de jeu. Puis Renato Sanchez égalise pour le Portugal avant la mi-temps. Le score en restera là à la fin des 90 minutes de jeu et au bout des prolongations. Arrive alors la fameuse séance des tirs au but. Les quatre Portugais transforment leur tentative quand Jakub Błaszczykowski, quatrième tireur, s'élance et voit son pénalty repoussé par Rui Patricio. Ricardo Carrera n'a plus qu'à marquer et délivre tout un peuple comme lors du huitième de finale. La Seleção jouera sa cinquième demi-finale de championnat d'Europe, la deuxième consécutive.
Voilà, c'est le dernier carré justement et le Portugal y est depuis hier. Merci Jean-Roger Bion. Le choc de ces quarts de finale aura lieu demain entre le champion du monde en titre, l'Allemagne et l'Italie.
Bagassi. Oui, la rencontre a des faux airs de finale hein, car le match oppose deux monuments du foot mondial, les forces en présence avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou.
C'est le face-à-face le plus relevé de cet Euro. D'un côté, les champions du monde en titre allemand et leur puissance offensive retrouvée après un premier tour hésitant. Et de l'autre, la sérénité défensive des Italiens, finalistes il y a 4 ans et vainqueurs de l'Espagne en 8e de finale. L'Allemagne sera quasiment au complet. L'habituel capitaine Bastian Schweinsteiger devrait une nouvelle fois être ménagé. Khedira sera en charge des tâches défensives au milieu du terrain. En attaque, Joachim Löw va trouver la bonne formule avec Draxler sur l'aile gauche, Ozil à droite et Thomas Müller dans l'axe juste derrière Mario Gomez. Cette escouade offensive devra se défaire de l'étau italien. L'Italie, qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de l'Euro, pourrait malheureusement se passer de Daniele De Rossi. L'homme fort du milieu de terrain ressent des douleurs aux hanches et s'est très peu entraîné cette semaine. Autre incertain, l'attaquant Antonio Candreva, déjà forfait face à l'Espagne. Barzagli, Bonucci et Chiellini seront bien présents en défense pour cadenasser les Allemands. Ce sera à Bordeaux à partir de 21h. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Voilà, Italie-Allemagne, et comme ça le choc de ces quarts, voyons ce qu'en pense Jules Valentin Gouet. Eh bien, c'est le coup de sifflet du jour.
Bonsoir. 48 ans pour l'Italie, 20 ans pour l'Allemagne. Voilà le nombre d'années qui séparent les deux mastodontes du football mondial de leur dernier titre européen. Cela fait désordre. D'autant plus qu'entre-temps, l'Italie a gagné deux Coupes du Monde et l'Allemagne la dernière. Le brillant parcours des deux formations depuis le début de l'Euro 2016 ne les prépare pas à accepter une défaite précoce après un tel envol. L'Allemagne, qui a atteint le volume de jeu de son mondial brésilien, est devenu pour beaucoup le super favori de la compétition et les organisateurs rêvent déjà d'une demi-finale aux allures de finale qui l'opposerait au pays organisateur jeudi. Mais attention, l'Italie a déjà nettement battu deux autres favoris désignés du tournoi, la Belgique et l'Espagne. Elle a réussi à faire déjouer, ce qui peut aussi être tenté avec succès contre l'Allemagne. Surtout que l'histoire est de son côté. L'Italie a souvent gagné les grands shows contre l'Allemagne dans les compétitions majeures comme les Coupes du Monde 70, 80 et 2006. Plus important, lors de ces rencontres, l'Italie a souvent tactiquement inversé les rôles et pris le jeu à son compte en faisant la course en avant pour des scores de 4 buts à 3 ou 3 buts à 1 qui n'avaient rien à voir avec son traditionnel Catenaccio. Certains diront à leur décharge que le Brésil était aussi considéré comme la bête noire de l'Allemagne jusqu'à la cruelle correction de 2014 avec le groupe actuel. Alors pourquoi pas l'Italie? Les paris sont ouverts. Réponse samedi soir. À lundi.
Merci Jules, merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Au Burkina Faso, la compagnie minière Endeavour Mining a procédé hier en présence du président burkinabé Roch Marc-Christian Kabore à l'inauguration du projet aurifère Houndé. Le coût d'investissement initial est estimé à 328 millions de dollars. Endeavour Mining prévoit d'employer jusqu'à 1800 personnes et 470 autres personnes durant la phase de production commerciale. La première coulée d'or est prévue pour le quatrième trimestre de l'année 2017. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal a servi une mise en demeure à la société Excaf Télécom, spécialisée dans la distribution de chaînes TV. D'après l'agence Ecofin, cet opérateur est accusé de distribuer illégalement les chaînes de plusieurs groupes audiovisuels installés en France. Il s'agit notamment de BIN Sport et de TF1, entre autres. Et on termine par l'Angola qui dit non à l'aide financière du FMI. L'institution a annoncé hier que ce pays avait interrompu le processus de demande d'aide financière sollicité en avril, alors qu'un préaccord sur un prêt d'environ 4,5 milliards de dollars était déjà conclu.
Ravi d'être à votre compagnie. Morgane Guériac et Gaby Dorsil, place au dossier du jour.
Au Burundi, le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, une ONG locale, dénonce le trafic de femmes vers les pays du Moyen-Orient, comme Oman et l'Arabie Saoudite. Certaines autorités burundaises sont pointées du doigt dans le soutien et dans la complicité de ce trafic humain. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint le président du FOCODE Pacifique, Nini Nahazwe.
Nous avons mené une enquête à Tchankouzo, dans d'autres coins, à l'aéroport de Bujumbura, où nous avons fait une surveillance pendant deux semaines, du 3 juin au 17 juin. Nous avons constaté, rien qu'en deux semaines, un mouvement de 225 filles qui allaient à Oman et qui allaient en Arabie Saoudite, et qui chaque fois étaient accompagnées d'un trafiquant jusqu'au tarmac de l'aéroport, ce qui montrait que ce n'était pas normal, que le trafic était soutenu en haut lieu. Il y a des groupes, des sociétés de trafiquants, au moins cinq sociétés de trafiquants et qui sont soutenus, qui sont d'abord agréés, enregistrés à l'Agence pour la promotion des investissements API et qui sont soutenus par le reste des autorités burundaises. Nous avons trouvé que, par exemple, à Rapaf, ces sociétés reçoivent des passeports de ces filles qu'elles recrutent et de manière groupée et avec une facilité extraordinaire. À Muyinga, à Bubanza, à Tchankouzo, comme je disais au départ, et à Bubanza, c'est là où ça s'est aggravé, où, par exemple, des responsables du parti CNDD-FDD ont cru à des mensonges de salaire alléchant en Arabie Saoudite et ont fini par envoyer leurs propres filles et leurs épouses.
C'est à quel prix et quel traitement elles subissent?
Chaque femme qui arrive notamment à Oman coûte 500 riyals omanais, c'est environ 1000 euros. En francs burundais, c'est autour de 2 millions et demi.
Est-ce que c'est le parti qui organise ça ou ce sont des individus, membres du parti qui utilisent le label partie, mais pour des fins...
Il est possible que ce soit un commerce de quelques personnalités. Mais la manière dont les différentes autorités ou les différents organes de l'État se sont comportés dans cette affaire, il est difficile de distinguer ce qui serait fait par des autorités à titre personnel. Par exemple, un ministre qui a posé un acte en utilisant son titre de ministre, c'est la ministre de la Santé qui a autorisé l'hôpital Kira Hospital le 22 décembre à faire des examens médicaux au profit d'une des compagnies de trafiquants. Ça donne les impression que c'était un trafic soutenu par le gouvernement, soutenu par le parti.
Est-ce que vous auriez touché les responsables de ce parti pour en savoir davantage?
Malheureusement, vous savez, le FOCODE est suspendu à Bujumbura.
Et quelles sont les conséquences sur les familles?
Des familles qui sont disloquées, des foyers disloqués. Il y a des femmes qui sont parties sans avertir leur mari. L'autre conséquence, c'est l'abandon des enfants. La nostalgie, les regrets, les situations d'abandon scolaire pour les jeunes filles.
pacifique Ninina Hasway, président de l'ONG burundaise Focodé. Récemment, la police burundaise a reconnu l'implication de certaines sociétés, mais sans remettre en cause aucune autorité de l'État.
Prolongement du mandat de la MINUSMA au Mali, la force onusienne passe de 12 000 à 13 289 hommes sur le terrain. Son déploiement est prévu jusqu'au 30 juin 2017. Les populations du nord du pays s'interrogent, nous dit Boubacar Touré, correspondant de VOA Afrique à Gao.
Dans les rues de Gao, où la force onusienne est fortement représentée, nous avons tendu notre micro à certaines personnes.
Dans la forme, c'est ce que tout le monde attend. D'abord que les enfants des autres pays qui sont venus défendre le Mali, qu'ils aient les moyens de se défendre pour pouvoir défendre les civils maliens.
Ce nouveau mandat, avec le renforcement des équipes, de la logistique et tout, nous attendons voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, les années précédentes, les résultats escomptés n'ont pas été atteints.
Nous pensions que la MINUSMA allait de Gao jusqu'à dans le hameau de Kidal, de Tassalit, faire la guerre pour mettre fin à ce terrorisme-là. Mais ce qu'on voit à Gao, nous voyons nos véhicules blanches, climatisés, et même les patrouilles qu'ils font à l'intérieur de la ville de Gao est très minime. Un véhicule, deux véhicules, avec des clignotants, chaque fois le même goudron-là. Pour nous, ça ne sert absolument à rien. Nous, on est d'accord avec la MINUSMA pour venir nous aider, mais nous voulons que la MINUSMA prenne les armes, aller tirer contre tout le monde.
Si aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il fallait changer de fusil d'épaule et de renouveler son mandat, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le mot robuste? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Il faut également des hommes, parce que tout le monde n'est pas véritable soldat. Porter la tenue des Nations Unies, cela ne fait pas de vous un véritable soldat. Nous attendons de voir sur le terrain de vrais résultats, participer au combat contre les terroristes qui nous envahissent aujourd'hui et qui font des problèmes au-delà même du Mali.
La paix au Mali dépend de la volonté manifeste des responsables des groupes armés et des responsables politiques à respecter leurs engagements.
Les responsables des groupes armés tiennent certains propos sur certaines antennes pour enfoncer, pour frister, pour narguer la population. Que les groupes armés soient sincères dans leurs propos pour aller vers la construction de la paix.
C'est l'occasion pour moi de plaider au niveau de tous les partis politiques, tous les cadres de la société civile malienne, à s'investir pour construire la paix. Eux qui sont détenteurs d'une certaine légitimité de pouvoir par rapport aux partis politiques et de bon sens par rapport aux cadres et de légitimité par rapport à la société civile, ils doivent aider le peuple à comprendre l'accord.
En tout cas, une nouvelle page s'ouvre au Mali pour la mission onusienne de maintien de la paix. Il ne reste plus qu'à voir les hommes sur le terrain pour apprécier à sa juste valeur le tout nouveau mandat de la MINUSMA qualifié de robuste par les experts. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a fait hier le point sur l'avancée des enquêtes des attentats terroristes qui ont frappé Ouagadougou, la capitale burkinabé, le 15 janvier dernier. Des interpellations effectuées, 10 suspects sérieux sont entre les mains de la gendarmerie et 3 des 10 présentent un intérêt commun avec les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
Depuis les attaques terroristes qui ont frappé la capitale burkinabé en janvier dernier et qui ont fait une trentaine de morts, les burkinabés se demandaient où en est l'enquête. Ce jeudi, le ministre de la Sécurité a levé un coin de voile. On écoute le ministre Simon Compaoré.
À ce jour, le bilan est le suivant. 49 interpellations de plusieurs suspects de nationalités diverses. Après donc des investigations poussées, 39 personnes ont été relaxées pour insuffisance de preuves. Et 10 personnes ont été retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Oursi en août 2015. 6 individus en lien avec l'attaque de Ouagadougou, dont les noms sont connus des services de sécurité, sont encore activement recherchés.
Parmi les suspects sérieux arrêtés, il y a 3 femmes, a assuré le colonel Serge Alain Ouédraogo. Il est le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie est coordonnateur des investigations.
Par rapport aux trois dames, il y avait une voiture V8 qui a été beaucoup utilisée dans les opérations à la fois à Grand Bassam et à Capucino, et qui servait à transporter les djihadistes, mais également le matériel. Et le chauffeur principal donc, de ce véhicule a été identifié et c'est sa sœur qui a été interpellée au Burkina. Donc ce n'est pas un Burkinabé. Ça veut dire que ça n'est pas burkinabé également. Maintenant, les deux autres femmes, il y a une qui est la femme d'un des grands suspects qui a été interpellé. Et dans l'interpellation, sa sœur était également présente, donc ça fait trois femmes.
En face de l'hôtel Splendid, qui a été une cible principale des assaillants, il y a le maquis bar Taxi Bruce, le lieu de l'assaut final mené par les forces de défense et de sécurité. Nous y sommes allés pour avoir les sentiments du gérant sur l'avancée de l'enquête.
Mon nom, c'est Somda Eric. Le jour de l'attaque, j'étais présent. Sur cette information que le ministre vient de donner, moi je suis très content de cette information. S'ils ont pu arrêter des gens et des gens qui étaient à l'origine pour cette frappe, vraiment ça me fait plaisir. Je souhaitais que cette enquête continue. C'est vrai que Taxi Bruce a été attaqué, mais la vie a repris à Taxi Bruce. Depuis lors, là, bon, les gens viennent, il y a la sécurité.
Zoumana Wounougou, Ouagadougou, BOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Toujours aucune revendication pour le triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul qui a fait 44 morts mardi soir. Claire Morin-Gibourg a joint Yann Saint-Pierre, PDG de Mosecon, société de conseil spécialisée dans l'antiterrorisme, pour lui demander pourquoi la Turquie était devenue une cible privilégiée du terrorisme.
La Turquie, c'est tout d'abord, c'est en raison de sa position régionale. C'était presque impossible en raison de tous les conflits qui ont lieu dans cette région-là que la Turquie s'en trouve épargnée. La Turquie elle-même réinitialisait le conflit avec les Kurdes. Elle a beaucoup de tensions avec la Syrie. Donc, c'était une question de temps avant que la Turquie se trouve à être attaquée de façon régulière et ça de la part de plusieurs groupes.
Alors, il n'y a aucune revendication à ce jour. Le mode opératoire fait penser au groupe État islamique.
Effectivement. Effectivement, si on regarde le mode opératoire, c'est un mode opératoire qui est utilisé régulièrement par le groupe islamique ou des groupes qui sont affiliés à Boko Haram ou à ce genre de groupe-là. Même s'il n'y a toujours pas eu de revendication, ça porte la signature d'État islamique.
Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de revendication?
Les attentats en Turquie de la part de l'État islamique n'ont pas toujours été réclamés. D'autre part, les délais varient en fonction du niveau de préparation, c'est-à-dire est-ce qu'on attend, si c'est quelqu'un qui a préparé l'attentat sans qu'il en soit au niveau central, très au courant. Au niveau de la Turquie, la particularité, c'est qu'il était à certains égards tolérante de l'État islamique, ce qui faisait en sorte qu'il y avait une entente informelle. Bon, tant que ça se limite à la Syrie, que ça joue le jeu de la Turquie, bon, on s'en mêlait pas trop, on s'en inquiétait pas trop. Maintenant, si le groupe État islamique décide de réclamer l'attentat, ça pourrait perturber peut-être certains liens, mais ça ne m'étonnerait pas. Puis il y a quand même certaines indications qui pointent en ce sens.
Que pensez-vous du futur de la Turquie dans cette double menace terroriste de la rébellion kurde et de l'État islamique?
Il semble, d'après les rapprochements vers Israël, envers la Russie cette semaine, que la Turquie semble maintenant privilégier faire la paix avec les partenaires externes. Pour moi, ça indique que la Turquie semble prioriser désormais le conflit avec les Kurdes. Elle choisit de régler ça elle-même à l'interne et à l'externe, mais maintenant, elle semble se fier à des partenaires extérieurs, comme je disais, la Russie ou Israël, pour espérer relâcher un peu la pression qui intervient sur elle au niveau de la Syrie et de l'Irak, en espérant que les Kurdes, qu'elles soient en mesure elles-mêmes de gérer la situation avec les Kurdes.
Yann Saint-Pierre, PDG de Mosecon, société de conseil spécialisée dans l'antiterrorisme.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31 40. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Yonaï Gaïma à la mise en onde, à la console Nick Ivanov, Morgane Guiriec, Urbain Dorcil à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.